Il a détecté le facteur des instincts pour mieux mettre en évidence le rationalisme spinozien à partir de l'aporie irrémédiable du constat requis. Mais il le fait en prenant des cartes à contre-pied. Je me plais à vous l'entendre dire, car c'est bien là le noyau du problème, et nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents. J'en fais partie, dois-je l'avouer, mais sans honte, car l'enjeu épistémologique est de taille. Et puis, il y en a un autre qui l'a cité abondamment et qui s'en est servi tout aussi abondamment dans sa théorie de l'insuffisance de la demande efficace. Oui, Keynes l'a remis à l'honneur dans son essai sur Malthus et dans la théorie générale. Keynes le considère comme un précurseur du fondement de sa propre théorie de l'insuffisance de la demande efficace. Et si l'on se plonge dans ces deux textes, après s'être imprégné de ceux de Mandeville, on voit clairement la parenté. Il semblerait que Keynes, un peu comme Oscar Wilde, ait tiré beaucoup de plaisir à contrarier ceux qui lui reprochaient d'utiliser les théories d'un auteur aussi sulfureux, un type qu'il trouvait profondément immoral. Mais Keynes demandait souvent autour de lui si on pensait que l'économie obéit à une quelconque morale. Et force est de constater qu'en général, on lui répondait qu'effectivement, il y a un doute. Mais pour revenir à votre question de tout à l'heure, vous noterez que Keynes, étant la référence incontournable de la social-démocratie en matière économique, cela vient nous remettre un Mandeville à gauche, en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a un point sur lequel il ne serait pas inutile de dire quelques mots. Il y a beaucoup de points à aborder encore, l'émission risque de ne pas suffire. Il faut en sélectionner un ou deux, je vous propose la psychologie. J'allais le dire car, en plus d'être un précurseur d'Adam Smith, Mandeville a aussi été un précurseur de Freud et des psychiatres en général. On ne se souvient pas assez de Théodule Ribot, par exemple, qui, à sa façon, a inscrit une thérapie d'écoute des malades mentaux, à l'instar de celle préconisée par Mandeville. Il ne faut pas oublier que Mandeville, à la base, était médecin. Il avait son cabinet à Londres, et c'est via sa pratique médicale qu'il a compris que l'écoute et la parole des patients tenaient un rôle important dans le processus thérapeutique. Curieusement, c'est cet aspect-là qui a intéressé Hayek, et non pas l'économie. Oui, mon collègue Jean-Émile Plat propose d'expliquer cela en se demandant si la chose n'a pas à voir avec les propres problèmes psychologiques dont souffrait Hayek. Il était atteint du syndrome de Blackmore, semble-t-il. Oui, c'est cela, et à la fin de la vie, les effets étaient devenus très invalidants. On peut peut-être rappeler pour les auditeurs quelle est cette maladie. Oui, le syndrome de Blackmore, c'est cette disposition psychologique qui nous commande d'oublier nos douleurs. Je m'explique. Quand nous souffrons d'un mal de tête, par exemple, si nous arrivons à nous en débarrasser, nous oublions très vite la douleur. Ce qui peut se comprendre, car on n'a pas envie de ressasser des moments pénibles. Mais, car il y a un mais, en oubliant cette douleur, on ne profite pas de son absence. Et à la place, vous savez ce qu'on fait? Que fait-on? On s'empresse d'aller chercher une nouvelle source de souffrance. Vous allez peut-être un peu loin. C'est le syndrome de Blackmore. J'ai repris presque mot à mot sa définition publiée dans Heavy Surprising Psychological Diseases. Mais pour revenir à Mandeville, celui-ci, à l'occasion de ses consultations, a élaboré une théorie tout à fait prémonitoire de celle de Freud, avec l'inconscient, le refoulement, la sexualité, tout l'équipement intellectuel dont Freud s'est servi par la suite pour inventer la psychanalyse. Mais l'a-t-il inventé lui-même? Vous en doutez? Non, non, il était tellement motivé qu'on ne peut pas en douter. Par contre, il n'est pas fait mention nulle part qu'il pourrait devoir, de ce qu'il pourrait devoir à Mandeville. Bien, l'émission se rapproche malheureusement de son terme. Et c'est bien dommage car nous sommes loin d'avoir abordé tous les thèmes que nous aurions voulu concernant Mandeville. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais en préparant l'émission, nous sommes tombés sur une étrange découverte émanant d'un petit journal du Shropshire. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout, je vous écoute. Dans un article, il est expliqué que du Shropshire Trumpeter, il est expliqué qu'un descendant de Lord qui était ami avec Mandeville s'est fait voler une lettre adressée à son aïeul par Mandeville lui-même. Vous n'êtes pas au courant? Si, si. Maintenant que vous me le dites, je me souviens de cette affaire, mais bon, je crois que la police n'a rien trouvé. En effet, mais vous connaissiez l'existence de cette lettre? Non. Réponse sèche et précipitée. Avez-vous une idée de ce qu'elle peut contenir? Comment voulez-vous que je le sache? Réponse un brin exaspéré. Effectivement, eh bien, nous voilà arrivés au terme. Je coupe le son et je réfléchis. Ai-je appris quelque chose? Non. Enfin, si. La fille des Mandeville s'appelait Pénélope. Je regarde le programme des émissions suivantes. L'ADN de la figure du clown. Et pourquoi les statues égyptiennes n'ont-elles plus donné? Ce qui me confirme que la station est bien au cœur des grands enjeux contemporains.